Voilà, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu fait des choses extraordinaires. Et nous sommes heureux de pouvoir vivre ces moments parce que c'est ce que Dieu a prévu. Dieu nous a prêté un souffle de vie. Et puis, nous vivons sur la terre, quelques 80, 90 ans, 100 ans pour les plus robustes. Mais le plan de Dieu, c'est que pendant ce cours de notre existence, nous puissions être interpellés par qui il est, que nous puissions réaliser que Dieu nous aime. Savez-vous que Dieu n'est pas votre ennemi? Le savez-vous? Dieu nous a créés. C'est par amour qu'il nous a donné un souffle de vie. Et ce qu'il veut du plus profond de son être, c'est de pouvoir instaurer une relation vivante entre lui et vous. Dieu nous a créés et il veut simplement instaurer une relation vivante avec lui. Alors tout ce que nous sommes en train de vivre au travers de ces engagements, c'est la confirmation de ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions faire un demi-tour dans notre vie, pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions le découvrir et nous attacher à lui, et vivre sur la terre des hommes, ce que nous avons à vivre avec lui, que Dieu soit glorifié. J'aimerais lire avec vous un passage qui se trouve dans les Écritures, dans le premier livre des Chroniques, dans l'Ancien Testament. Nous allons y retrouver un homme qui s'appelle Jaébet. Est-ce que vous le connaissez? Jaébet. Il n'est pas écrit grand-chose sur cet homme, mais il y a quelque chose qui va nous intéresser cet après-midi, c'est que cet homme va prier Dieu. C'est important de prier Dieu. Alors on va lire au chapitre 4 et au verset 9, il est dit ceci. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il y a eu comme un temps de silence. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Alors, nous venons d'entendre la prière d'un homme en souffrance. Et remarquez que Jaébet aurait pu lever le poing contre Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes qui souffrent, ont ces deux possibilités, soit ils lèvent le poing contre Dieu, ou soit, ils fléchissent le genou pour invoquer le Créateur. Et voyez-vous, cet homme ne va pas lever le poing contre Dieu, mais il va demander à Dieu sa grâce, son aide, son secours. Alléluia! Alors cet après-midi, nous vous invitons à faire de même. Très simplement dans votre cœur, sachez que Dieu vous entend. Et une prière simple, sincère, honnête, dans votre être intérieur est entendue de Dieu. La Bible dit que même si la parole ne vient pas encore sur notre bouche, sur notre langue, Dieu connaît nos pensées. Il sait ce que nous sommes en train de vivre. Il connaît nos cris, nos désarrois, il les connaît. Alors, Jaébet n'a pas demandé de compte à Dieu. Il n'a pas dit, mais pourquoi suis-je né comme ceci? Pourquoi tant de souffrances jusqu'à ce jour? Il aurait pu le faire. Il en avait les raisons. Il souffrait. Et voyez-vous, dans ce texte, c'est vrai, il y a un mot qui m'a comme marqué. C'est le mot malheur. Le mot malheur. Le mot malheur, c'est vrai, quand on regarde dans le dictionnaire, il est défini comme ceci, c'est une situation, une condition pénible, triste. Et on comprend que, à travers de ce mot malheur, se cachent bien d'autres mots. Lorsqu'on regarde, dans la suite de l'explication de ce mot malheur, nous trouvons d'autres mots comme adversité, nous trouvons des mots comme affliction, nous trouvons des mots comme chagrin, tristesse, infortune, misère, peine. Le mot malheur a donné aussi un autre mot. C'est le mot malédiction. Et là, dans cette définition du mot malédiction, eh bien, nous allons encore plus loin dans la souffrance. C'est-à-dire que on peut connaître un malheur ponctuel, mais la malédiction, c'est être voué par la destinée, par le sort, comme une fatalité. Et parfois, on semble qu'on est lié comme par une fatalité de malheur, et que rien ne fonctionne dans notre vie. Et qu'on essaie de s'en sortir par tous nos efforts, et que par notre bonne volonté, on essaie de trouver toutes les solutions pour sortir de notre désarroi, de notre malheur, de notre souffrance, de nos peines. Concernant Jaébet, on pourrait encore croire que la malédiction le poursuivait. Mais c'est vrai, il aurait pu dire « dès ma naissance, le malheur me poursuit ». Il aurait pu le faire. Jaébet veut dire douleur. Est-ce que vous aimeriez avoir un prénom comme le sien? Dites-moi, honnêtement. C'est dur à porter. Tiens, voilà douleur. Ah. Difficile à porter. Le contenu de sa prière laisse entendre ici que cette douleur, il l'a véhiculée pendant plusieurs années. Et chers amis, j'aimerais vous dire ceci. Quand bien même on s'appelle peut-être Bertrand, Nathalie, Roger, et qui vous voulez, mettez-y votre prénom. Quand bien même, eh bien, on ne s'appellerait pas Jaébet, nous portons la douleur dans notre vie. Chacun. Et il y a des causes à tout cela. Affligé, triste, malheureux, nous connaissons ces choses sur notre terre. Mais comment se fait-il que nous en sommes arrivés là? Et peut-être que tu es entré dans ce lieu, tu as des questions dans ton cœur. Peut-être que tu te dis ceci, s'il y avait un Dieu, je ne souffrirais pas de cette manière. J'aimerais dire que nous avons reçu un souffle de vie, tous, de la part de Dieu. Ce souffle de vie, eh bien, n'a pas fait que nous partions en pleine égalité dans la vie. Parfois, nous naissons dans la souffrance. Parfois, nous grandissons dans la souffrance. Mais quoi qu'il en soit, même si nous sommes en bonne santé, parfois, eh bien, nous avons même des richesses, mais notre cœur est en souffrance. La mère de Jaébet, il faut y revenir. Parce que, avant le malheur de Jaébet, il y avait la maman de Jaébet. Et il est dit dans notre lecture qu'elle a donné ce nom Jaébet à cause de la souffrance des douleurs de l'enfantement. Donc, on peut dire ceci, Jaébet n'y était pour rien. Il a hérité quelque chose. Et on va aller plus loin. Est-ce que la maman était responsable de cette souffrance? Bien sûr que non. Elle ne veut pas mettre au monde un enfant qui va souffrir. Jamais de la vie. Quand on met au monde un enfant, on veut qu'il soit bien, qu'il ne souffre pas, qu'il ne connaisse pas le malheur. Alors, la réponse, elle n'est pas du côté de sa maman. Mais j'aimerais dire qu'il faut remonter à l'origine de ses souffrances, de ses douleurs, de l'enfantement. Et j'aimerais simplement lire ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 16, où il est dit ceci, après que Ève se soit dégagée de l'autorité de Dieu, après qu'elle ait détourné ses regards de Dieu pour se tourner vers la voix de l'adversaire de Dieu et de notre âme, le diable, elle va écouter quelqu'un qui veut notre malheur et qui est la source de tous nos malheurs. Et il est dit ceci dans Genèse chapitre 3 verset 16, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Alors, de suite, nous commençons à comprendre que ces souffrances, ce malheur que nous pouvons connaître, vient non pas des autres, mais vient d'une situation qui a été provoquée dans la race humaine, provoqué par le fait qu'il y a eu un détachement de Dieu pour vivre, eh bien, d'une manière solitaire, pour vivre selon sa propre autorité. Rappelez-vous qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, alors que Dieu voulait leur bonheur. Voilà que le malheur est entré dans leur vie. Dieu voulait, eh bien, une destinée de bonheur pour sa création. Comme la femme qui enfante un enfant veut son bonheur, Dieu nous a créés pour le bonheur. Et nous aspirons tous ici au bonheur. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a créés pour cela. Et quand nous souffrons, eh bien, nous trouvons cela comme une injustice. Nous disons, mais pourquoi tant de malheur ? Parce que dans notre cœur, il y a cette aspiration au bonheur parce que Dieu nous a créés pour le bonheur. Alors le malheur, il ne vient pas des autres. Il vient uniquement de notre situation de séparation avec Dieu. Et cet après-midi, j'aimerais te dire, ne t'en prends plus aux autres. Ne t'en prends plus aux situations, aux circonstances de la vie. Pour dire, voilà ce qui a causé mon malheur. J'aimerais te dire, la source de notre malheur à tous, c'est d'avoir vécu sans Dieu, sans l'autorité de Dieu. Bien sûr, nous croyons en Dieu. Qui ne croit pas en Dieu, quand on regarde la nature, on sait qu'il y a un créateur. Nous savons que nous ne sommes pas venus ici par hasard, mais qu'il y a quand même, eh bien, quelqu'un qui a créé toutes ces choses. Mais entre savoir que Dieu existe et croire que Dieu existe, la Bible dit que les démons croient aussi. Mais ils tremblent. Les démons croient, mais ils n'obéissent pas. Ils ne se soumettent pas à Dieu. Ils ne veulent pas de l'autorité de Dieu sur leur vie. Et voyez-vous, nous avons beau croire que Dieu existe, mais ce n'est pas suffisant. Le problème, il est plus profond que cela. Ce n'est pas le fait de croire en Dieu qui va nous sortir de nos difficultés, c'est le fait de faire un demi-tour dans notre vie et de nous tourner vers celui qui nous aime. De revenir à lui comme le fils prodigue qui est revenu vers son père. Il faut faire un arrêt. Et cet après-midi, Dieu permet que tu puisses t'arrêter peut-être pour faire le point. Rappelons-nous ce soir que cette situation de péché qui nous maintient dans le malheur, dans la souffrance, n'est pas une fatalité. Et la prière de Jaébet est là pour nous le rappeler. Tout peut changer pour toi. Tout peut changer pour toi. Je ne parle pas d'une religion qui va changer ta vie. Moi-même, avec ma mère, mes frères, mon frère et mes sœurs, eh bien, nous allions fidèlement, mais nous suivions une religion. Nous entendions parler de Dieu, mais on ne le voyait pas. Nous étions un peu comme Jaébet. La maladie était reine à la maison. Il y avait de la souffrance. Depuis mon jeune âge, j'ai vu ma mère souffrir. Depuis mon jeune âge, j'ai vu mon frère souffrir. Et on aurait pu lever le poing contre Dieu. Mais croyant qu'il y avait un Dieu, nous avons essayé de nous en sortir par nous-mêmes, en criant, en priant tous les saints que nous connaissions, mais rien n'y a fait. J'aimerais vous dire que la religion ne vous aidera pas. Il faut quelqu'un de puissant pour cela. Quelqu'un qui ait toute autorité. Quelqu'un qui soit capable de venir jusqu'à votre malheur et de vous arracher à ce malheur. Alléluia. Alors il va prier. L'homme qui s'appelle douleur nous rappelle par sa prière qu'il y a quelque chose de possible aujourd'hui. Il va prier Dieu, c'est-à-dire qu'il va s'approcher de Dieu avec humilité. Non pas avec arrogance, mais avec humilité parce qu'il sait qu'il est une créature de Dieu. Il est là avec humilité et il lui demande non pas des comptes, mais il lui demande du secours. Et vous savez, si je suis ici, c'est parce qu'un jour, dans le cœur de ma mère, il y a eu ce cri. Seigneur, si tu es dans ce lieu, guéris mon fils. Voilà la prière qui a été celle qui s'est exprimée dans le cœur de ma mère. Si tu es dans ce lieu, guéris mon fils. C'était le malheur à la maison. Malheur pour ceux qui étaient malades, Malheur pour ceux qui étaient autour des malades, c'est-à-dire nous qui étions en bonne santé. Alors il ne touche pas du bois. Il ne jette pas du sel devant sa porte. Il n'accomplit pas d'actes de superstition pour que le malheur s'en aille. Non. Mais il parle à Dieu. Il s'exprime devant Dieu. Il répand sa souffrance devant celui qui est au-dessus de tout. Alors il prie. Et ce soir, j'aimerais vous dire, priez dans votre cœur. Demandez du secours au Seigneur. Parce qu'il est écrit dans la Bible, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Il y a de l'espérance pour vous cet après-midi. Parce que ce Dieu qui délivre de nos détresses, je le connais. Et plusieurs ici le connaissent et nos amis qui se sont engagés ont fait cette expérience de réconciliation avec Dieu. Ils le connaissent. Et il est bon de prier Dieu et de l'invoquer, de lui demander du secours. Ne vous tournez pas vers les hommes. Ne vous confiez pas en l'homme. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est-à-dire qui met sa confiance en lui, qui s'appuie sur Dieu. Cet après-midi, vous pouvez ressortir de ce lieu complètement différent de ce que vous êtes entré il y a quelques instants. Moi, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Il vous connaît. Et on ne peut rien lui cacher, vous savez. Alors que nous étions comme tissés dans le sein de notre mère, Dieu nous connaissait déjà. C'est merveilleux. Une science aussi grande nous dépasse. Mais c'est la prescience de Dieu. Alléluia. En priant, Jaébet manifeste, eh bien, tout simplement sa crainte, son respect à l'égard de Dieu. Quand on prie Dieu, c'est parce qu'on le respecte. C'est parce qu'on a de la crainte dans notre cœur à son égard. Il va manifester sa foi, sa confiance, parce que s'il vient demander quelque chose, c'est parce qu'il croit que ce qu'il demande va être entendu. On ne prie jamais en vain. Dieu veut entendre ta prière. Il faut que tu fasses une démarche, toi, rapproche-toi du Seigneur. La Bible dit que celui qui cherche trouve. Si tu cherches Dieu, Dieu se laissera trouver par toi. Alors, c'est ce qui va le rendre agréable à Dieu, la foi. Ça va le rendre agréable à Dieu, et quand il y a la foi dans un cœur, Dieu honore notre foi. Il est le rémunérateur de notre foi. Et la Bible dit qu'à peine il avait terminé de prier, il y a eu 3 petits points de suspension, et Dieu exauça sa prière. Dieu exauça sa prière. Ça me fait toujours trembler. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se sent si petit. Nous ne sommes que des êtres humains dits dans l'univers. Nous sommes un point noir sur le mur, vous ne le voyez même pas. Mais Dieu prend soin de nous. Et lorsqu'on fait monter notre petite voix pour faire connaître notre malheur à Dieu, j'aimerais dire que Dieu en prend compte. Il en prend considération. Ce soir, j'aimerais te dire, ouvre ton cœur. Prie. Avec foi, invoque-le, crie au Seigneur, et le Seigneur viendra à ton secours. Alors quelqu'un va peut-être me dire, pasteur, l'histoire de Jaébet, c'est une belle histoire. Vous avez choisi une belle histoire cet après-midi. Et en effet, c'est une belle histoire, mais j'aimerais aller plus loin maintenant. Parce que non seulement c'est une belle histoire, mais cet après-midi, ça peut être ton histoire. Parce que quand Dieu parle, il nous parle à chacun. Il nous parle là dans nos circonstances de vie. Et aujourd'hui, ton histoire de vie peut changer. Ta vie peut prendre un tournant, une nouvelle orientation. Ça peut être ton histoire. Et je vais vous entraîner un peu plus loin maintenant. On va lire dans le livre du prophète Ésaïe ce qui est écrit au chapitre 61. Et au verset premier, il est dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Et puis on pourrait vérifier ce qui s'est passé lorsque Jésus était sur la terre. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, nous allons retrouver ce texte prophétique dans son plein accomplissement. Gloire à Dieu. Il est écrit ceci au chapitre 4 et au verset 16. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Jésus, c'est celui que Dieu a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres que nous sommes. Oui, il est venu sur la terre des hommes pour venir nous secourir. Jésus est envoyé et qualifié par Dieu pour, nous sortir de notre malédiction. La Bible dit ceci, Jésus a porté notre malédiction à la croix du calvaire. Lorsque on va conduire Jésus sur le mont Golgotha, ce ne sont pas les hommes qui l'ont conduit là, c'est notre péché. Et j'aimerais dire que Jésus ne va pas résister parce qu'il va dire « Je dois monter jusque sur le bois de la croix parce que là je dois porter la malédiction des hommes. » Tout ce qui vous rend malheureux, Jésus l'a porté sur lui. Votre vie sans Dieu, il l'a pris sur lui. Alléluia. La Bible dit qu'il va être couronné d'épines. C'est la malédiction qu'il porte sur lui. Étant devenu malédiction, dit la Bible, il est écrit que maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. Christ nous a rachetés de la malédiction. Nous sommes tous séparés de Dieu. Par notre naissance, nous naissons dans cette situation de péché, de séparation avec Dieu. Bien sûr qu'il y a une aspiration de Dieu, une aspiration à être dans le bonheur, mais nous ne pouvons rien y faire, nous sommes nés dans le péché. Mais pendant le cours de notre existence, Dieu fera concourir les choses pour que sa parole vienne jusqu'à nous et illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre que le malheur ne vient pas de Dieu, mais de notre situation de séparation avec lui. Et cet après-midi, si tu réalises ces choses, j'aimerais te dire, approche-toi de la croix et regarde Jésus, lui qui est venu sur la terre des hommes. Il est venu pour porter ta malédiction et la mienne. Et la Bible nous dit qu'il est venu porter notre péché. Et si tu veux que ta vie change, ce n'est pas la société qui doit changer, ce n'est pas les choses autour de toi qui doivent changer, mais c'est ton cœur. C'est ton cœur. Comme Jaébeth, tournez-vous vers ce Dieu d'amour qui nous a tant aimés, qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lui, il est venu sur la terre des hommes pour nous sortir de notre malédiction. C'est quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul, médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. J'aimerais dire qu'il est celui qui est venu de la part du Père. Il a accompli une œuvre de rédemption, de rachat. Il est venu solutionner le problème de notre péché, et la Bible dit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et il est le seul ayant la possibilité de s'asseoir auprès du Père. La Bible dit que Jésus a reçu toute autorité dans le ciel. Tout pouvoir lui a été donné, aussi sur la terre. C'est ainsi que ce soir, si tu humilies ton cœur, si tu ne t'en prends pas à Dieu à cause de tes souffrances, mais si plutôt tu demandes du secours à Dieu et que tu reconnais que ton malheur vient de ta séparation avec Dieu, alors une solution de Dieu viendra pour toi. La Bible dit que les disciples ont prêché la repentance et Pierre va annoncer que des temps de rafraîchissement viendraient suite à cette repentance. J'aimerais dire que la repentance, c'est un passage qui nous fait passer, eh bien, du malheur au bonheur. C'est tout ? C'est tout ? Moi, je suis le plus heureux des hommes. Parce qu'un jour, je suis passé du malheur au bonheur. J'ai vu la puissance de Dieu, non seulement dans les corps, mais je l'ai vu surtout dans mon cœur. Parce que vous savez que Dieu peut guérir les malades. Mais s'il nous guérit et que notre cœur ne change pas, dites-moi, à quoi cela sert-il ? Parce qu'un jour, nous partirons de cette terre. Parce qu'il est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Alors si tu as été guéri par Dieu, mais que tu ne t'attaches pas au Seigneur, que va-t-il se produire ? Mais tu seras éloigné de Dieu pour l'éternité. Là, ça sera les malheurs dans toute sa puissance, les tourments éternels. Cet après-midi, ne jouons pas avec notre salut. Dieu nous appelle dans son amour, à faire un demi-tour. Arrête le chemin qui est le tien. Fais un demi-tour. Reviens à Dieu. Humilie-toi. Et bien humblement, dans le respect et la crainte de Dieu, élève ta prière. Répands ta plainte. Fais-lui connaître ta douleur, ta souffrance, ton malheur. Ne t'en prends ni à ton père, ni à ta mère, ni à la société, mais réalise que ce malheur vient du fait que tu es séparé de Dieu. Lorsque tu te réconcilieras avec Dieu, les choses vont se relever. Dieu va reconstruire, il va rebâtir ta vie, il va restaurer ton âme, il va panser tes blessures, il va te donner de l'espérance et un avenir. Alléluia ! Dieu est merveilleux et rien n'est comparable à celui qui nous aime. Alléluia ! Nous cherchons la solution près des hommes, c'est une folie. Ne faites plus cela. Tournez-vous vers Dieu et criez à lui que Dieu soit béni. Je vais terminer en disant ceci. Dans Jean, chapitre 10, et au verset 9, Jésus va faire cette déclaration. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Si quelqu'un entre par moi, c'est-à-dire que si tu reconnais Jésus comme ton sauveur personnel, si tu crois qu'il est venu pour pardonner ton péché et régler ta situation avec Dieu, te réconcilier avec lui, tu entres dans une dimension de vie qui est nouvelle. Tu entreras dans une vie non plus solitaire, mais une vie accompagnée de Dieu. Une relation va se construire entre Dieu et toi. C'est la volonté de Dieu depuis toujours. Et puis tu entreras, mais tu vas sortir. Tu vas sortir d'une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu. Tu vas sortir de choix qui ne correspondent pas à une vie heureuse. Et puis tu t'appliqueras à entrer dans cette vie nouvelle pour obéir au Seigneur un peu comme nos amis ont fait. Ils vont marquer, eh bien, leur fidélité à Dieu par un acte, celui du baptême. Ils se relèvent de l'eau. Eh bien, c'est comme s'ils vivaient une vie nouvelle en disant, Seigneur, maintenant ma vie tout entière est à toi. Et je veux marcher conformément à ta volonté. Vous savez, lorsqu'on fait la volonté de Dieu, on ne peut pas être malheureux. Il y a une joie qui vient habiter dans notre cœur. Que Dieu soit béni. Alors, je termine avec ce texte qui se trouve dans Michée. Il est dit ceci au chapitre 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi? Quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Amen. Qui est semblable à toi? Personne. Dieu est un Dieu d'amour. Il ne veut pas que tu te perdes. Il ne veut pas que tu souffres, mais il veut te sauver simplement. Alors on va prier ensemble que Dieu soit béni. Seigneur, nous sommes dans ce lieu et nous savons que lorsque nous sommes unis en ton nom, tu es au milieu de nous. Et Seigneur, nous qui sommes limités dans l'espace, eh bien toi, tu ne l'es pas. Tu passes dans les rangs, Seigneur, et tu visites les cœurs de ceux qui ont entendu ta parole, l'évangile de la grâce. Seigneur, tu les bénis. Seigneur, tu entends leurs prières. Seigneur, tu exauces leurs prières dans ta grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour l'amour que tu nous manifestes. À toi l'honneur, à toi la gloire.